Europe 1.
8h13 sur Europe 1, votre invité Sonia Mabrouk est le président du groupe qui porte son nom.
Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Michel-Édouard Leclerc.
Bonjour Sonia, bonjour à tous Europe 1.
Il y a les questions Michel-Édouard Leclerc et les difficultés sur le pouvoir d'achat et bien sûr nous allons en parler tout au long de cet entretien. Mais une fois n'est pas coutume, pouvons-nous démarrer cette interview par une bonne nouvelle si elle se confirme? Est-ce que la reprise économique est palpable? Elle est réelle de votre point de vue?
Oui, elle est réelle. Elle est réelle, je la vois à travers l'observatoire formidable d'un groupe de distribution. Il y a 19 millions de clients, de foyers français qui viennent, 19 millions de foyers qui viennent dans les centres Leclerc. Et j'en discute avec mes collègues d'Intermarché et de Système U. On a une activité très soutenue. Il y a une vraie croissance. La consommation tire la croissance. Si on regarde nos fournisseurs aujourd'hui, ils s'en sortent pas si mal, et malgré ce qu'on dit de notre pression sur les prix, regardez les résultats publiés des entreprises du CAC 40, ils n'ont jamais été aussi bons. Regardez, il y a très peu de faillites, très très peu. Moi j'aurais cru que dans la restauration, dans le domaine des services, il y ait beaucoup de faillites. En fait, les aides de l'État pendant la période Covid ont eu un effet très positif, faut bien le dire, faut savoir le dire, arrêter de râler tout le temps. Les chauffeurs de taxi, aujourd'hui, un certain nombre d'acteurs économiques reconnaissent que la France s'en tire bien.
Et dans votre domaine, Michel-Édouard Leclerc, on imagine que ce sont de manière générale les enseignes les moins chères, vous et d'autres, qui vont, entre guillemets, profiter de cette reprise.
Oui, alors il y a deux secteurs qui marchent bien. Je réagis parce que hier, j'étais avec des étudiants de Neoma, cette école de commerce Reims et Rouen, que j'anime. Et il y avait un des dirigeants du groupe Vuitton, le secteur du luxe aussi.
Mais généralement, il résiste à toutes les crises.
Les crises, et malgré des difficultés à l'exportation. Donc le luxe marche très très bien et tire une partie de la croissance française, rapporte des devises à la France. Et puis le secteur, au contraire, des prix bas, tire aussi très très bien la machine française. Les enseignes qui marchent le mieux en France, c'est Leclerc, Lidl, Aldi, Intermarché, Netto, les systèmes U, on tire bien. Et même Carrefour revient dans la course.
C'est bien, vous citez tout le monde. Et est-ce que cette reprise, Michel-Édouard Leclerc, est-ce qu'elle risque d'être stoppée, parce qu'on va en parler même net, par la situation inflationniste?
Alors, la situation inflationniste arrive. Il y a une vague inflationniste qui arrive en France. Alors, le gouvernement l'a déjà freinée sur l'énergie. On oublie, il y a bien sûr la compensation, les chèques énergie, le gaz, etc. On peut discuter des montants et tout, mais ce qu'il a fait aussi le gouvernement, c'est qu'il a bloqué les prix du gaz à un niveau après augmentation, mais c'est bloqué. Donc ça ne va pas faire remonter l'indice d'ici le printemps prochain. En revanche, arrivent des vagues d'augmentation de matières premières, mais vraiment très fortes.
Quand vous dites très fortes,
c'est-à-dire augmentation des factures de transport qui vont se rajouter à ces augmentations de matières premières, des sources d'énergie dont on va avoir besoin pendant l'hiver pour chauffer, mais aussi faire tourner les usines qui augmentent, et puis les contenants, vous savez, aussi bien le papier que l'aluminium, tout ça, ça augmente de 30
à 40%. Alors, détaillons tout cela, parce que le pouvoir d'achat, la préoccupation des fins de mois, évidemment sujet essentiel, le marché des matières premières alimentaires, Michel-Édouard Leclerc, augmente, le fret maritime explose, j'ai vu les chiffres ce matin, c'est assez édifiant. Et ça se répercute naturellement et logiquement sur les prix. Est-ce que l'État peut agir sur ces entreprises mondiales de fret maritime? C'est pas un petit sujet.
C'est un gros sujet. Quand j'ai commencé à en parler, j'ai vu la bombe que ça représentait. Je voyais bien les résultats quand même mirobolants de ces grandes compagnies maritimes. J'ai rencontré d'ailleurs le président d'une de ces compagnies maritimes qui n'était pas très content au départ.
Qui est français, on peut le dire.
Qui est français,
Monsieur Saadé.
Qui n'était pas content parce que j'avais demandé une commission parlementaire, une commission d'enquête ou d'information, car je trouve ça bizarre d'augmenter terriblement les factures alors qu'on affiche des résultats par 30 milliards trimestriels. Énorme. Après, les parlementaires ne s'en sont pas saisis, donc je ne connais pas la mécanique. Je ne sais pas si vraiment l'État français a les moyens ou a envie de s'opposer à cette inflation-là. Après tout, cette compagnie française vient de racheter une part du port de Los Angeles. C'est un joli coup pour la France aussi.
Mais il y a un impact sur les prix.
Sur
lequel on ne peut pas agir, apparemment.
Et comme on l'aurait dit sur Europe 1 vieille manière, c'est toujours le cochon de payant à la fin, c'est le consommateur qui va payer. Et donc, moi, c'est pour ça que je rempile aujourd'hui. Je rempile parce que je pense qu'il ne faut pas laisser passer cette inflation.
Mais comment, Michel-Edouard
Il faut négocier, il faut trier et il faut s'opposer.
Est-ce que vous êtes obligé d'augmenter les prix? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre alternative?
Il y a des prix, on ne peut pas faire autrement, sinon des agriculteurs vont déposer le bilan. Par exemple, que ce soit des gens qui font du blé, que ce soit des gens qui font de la farine, ou que ce soit des boulangers qui en font des baguettes, ils sont obligés d'augmenter les prix, sinon ils ne vendent rien. La baguette a pris 10 centimes, elle va reprendre 10 centimes. Bon, s'il n'y avait que la baguette, c'est pas grave. On élargit. Qu'est-ce qui s'est passé pendant le Covid? Tout le monde s'est précipité sur les pâtes. Eh bien, figurez-vous qu'aujourd'hui, les pâtes ont augmenté de 35%. C'est d'ailleurs assez extraordinaire. Tout le monde parle du prix des carburants. Ça, c'est une réalité. Mais regardez, allez dans vos magasins, mais dans toutes les enseignes de distribution,
on le voit tout de suite,
plus 35%.
Sur le ticket. Mais c'est pour ça que je vous demande, est-ce que vos prix vont augmenter plus que l'inflation? Vous ferez une transparence totale
non,
là-dessus?
Non, les prix vont faire l'inflation. L'INSEE va cumuler tout ça. Mais on va trier. Il y a des hausses de prix qui nous arrivent d'agriculteurs français, de producteurs, d'éleveurs. Celle-là, elle passera. Nous allons prendre sur nos marges, nous allons lisser, nous allons faire des contrats à long terme. Donc, on va mettre le prix, comme on dit, dans un tunnel, de manière à ce que le consommateur ne soit pas impacté trop fort en une fois. Après, il y a les grands industriels qui transforment ces matières premières et qui ont aussi des marges. Le PDG de Danone actuel n'a pas fait mystère de vouloir augmenter la marge de ses actionnaires. Donc, on va discuter, là, on peut discuter.
Donc,
c'est
les
pas
négociations
pour
sont en cours.
On est pour la négociation. Et le PDG de Nestlé, je vous donne des exemples très précis, qui demande aujourd'hui des hausses très élevées sur la pizza, sur le café, sur des produits à base de chocolat. Comme il a annoncé aussi dans sa communication boursière, parce que tous ces gens-là sont transparents, je regarde, je lis les journaux, je vois bien qu'il a annoncé une hausse des rémunérations et des dividendes. Donc il n'y a pas de raison qu'on fasse payer aux consommateurs français l'augmentation des dividendes d'une société multinationale.
Donc
on va... Là,
Michel-Edouard Leclerc, vos facteurs de tri, c'est en fonction de cela. Il y a évidemment, j'allais dire, le pouvoir vivre dignement des agriculteurs, et ça c'est essentiel. Et puis il y a les marges dont vous venez de parler, et c'est sur ces produits-là qu'il va y avoir des négociations,
oui,
que les prix ne doivent pas augmenter.
Voilà, c'est là où, depuis 5 ans, et même si vous vous souvenez, quand je viens à Europe 1 depuis 5 ans, on est dans la déflation et on me dit, le prix bas, tu l'emploies, est-ce que vous en faites pas trop, la pression de la grande distribution, etc. Là, aujourd'hui, l'inflation aux États-Unis, c'est 6% en rythme annuel. Allemagne, 5,2%. Espagne, 5,5%. En France, la statistique, c'est 2,6% pour le mois dernier. Moi, je vous dis qu'on va monter très, très vite à 4%, malgré le fait que l'État, de manière très heureuse d'ailleurs, ait bloqué le prix du gaz. Et donc, c'est nous qui allons faire le boulot. Ce sont les négociateurs de Leclerc, de Carrefour, d'Intermarché,
vous avez
qui
cité
vont
l'État.
Modérer cette inflation.
Vous avez d'ailleurs plutôt fait un éloge de la politique de l'État, mais c'est aussi la politique du chéquier. C'est aussi l'argent des Français. Est-ce que ce ne sait pas plutôt aux entreprises décider maintenant de ces augmentations de salaire? On va parler de votre cas en particulier. Mais est-ce qu'il faut qu'il y ait un mouvement général désormais?
Oui, il y a les deux. Le pouvoir d'achat, c'est ce qui assure la croissance de la consommation. C'est ce qui assure aussi la confiance dans le politique. C'est pas qu'une affaire économique, le pouvoir d'achat. Rappelez-vous, les Gilets jaunes, c'est un prurite de révolte, même avant les bonnets rouges en Bretagne, face à une taxe, face au prix des carburants, où il y avait un peu les 80 km/h, etc. En fait, dès qu'on est contraint, on se rebelle. Surtout chez nous en Bretagne. Dites-le à Vincent Bolloré, votre propriétaire. Et donc, je pense qu'il faut qu'on anticipe ça. Il y a une dose d'inflation qui risque de casser la dynamique
de
croissance.
Mais comment vous l'anticipez? Prenons un exemple très concret pour les caissiers, les caissières, des centres...
Salaires. En fait, le pouvoir d'achat, c'est deux volets.
Tout
le pouvoir d'achat,
oui.
Mon premier métier, c'est d'abord d'empêcher que l'inflation ne vienne ronger les salaires par l'inflation, d'accord? Donc ça, je retrouve, les négociateurs dans la distribution retrouvent la noblesse de leur métier. Mais c'est vrai dans les collectivités locales, non, ceux qui achètent dans les cantines, ceux qui achètent
les
dans les entreprises,
Michel
Edouard, les grands
exemple
acheteurs.
Concret pour qu'on
et sur les salaires, et sur les salaires, aujourd'hui, les arbitrages, pour un groupe comme nous, ils sont triples. C'est D'abord, est-ce qu'on repart tout de suite pour créer des emplois? Et la réponse, c'est oui, la masse salariale va augmenter parce que nous allons créer cette année 3000 emplois. Je vous ferai remarquer qu'on est
donc
toujours
en crise. Donc la masse salariale va augmenter.
La masse salariale
l'augmentation
augmente,
est prévue.
Donc
oui.
Déjà, c'est du pouvoir d'achat qui va être créé par création nette de 3000 emplois et des emplois de bouche, mais des emplois d'informaticiens sur Internet,
un chiffre,
etc.
Je vais vous citer un chiffre qui avait été donné par Jean Castex quand il a annoncé l'indemnité inflation. Il y a 38 millions de Français qui gagnent moins de 2 000 euros et parmi eux, 9 millions sont sous le seuil de pauvreté. Ils gagnent moins de 1063 euros. On est dans une société où le travail paye, selon vous ?
Non, le travail ne paye pas assez. En tout cas, le travail, il y a peu d'espoir de s'acheter une maison par son travail.
Il y a peu d'espoir. Il y a même peu d'espoir pour vivre dignement à ces niveaux-là.
Et depuis 5-6 ans, le revenu du travail, le revenu de compensation, les transferts sociaux ont compensé ça. Mais le revenu du travail ne permet pas à un jeune couple aujourd'hui d'acheter dignement un appartement.
Et vous entendez
et donc,
les propositions.
C'est un vrai sujet que celui de l'augmentation des salaires. Je ne tournais pas autour du pot en vous répondant tout à l'heure. Je suis pour qu'il y ait une augmentation des salaires et pour ça, je suis aussi pour libérer le salaire des autres charges. Je suis pour le déconnecter des autres charges.
Bien, mais je vous demande un exemple concret sur les caissiers et les caissières, si une augmentation était prévue, pour savoir un petit peu comment ça se passe.
Mais bien sûr, on est dans un des rares secteurs, je ne sais pas quelle branche vous avez, Europe 1, mais nous, par exemple, on a le 13e mois garanti.
Parlons des autres, des Français.
Parlons des autres.
Oui.
Non,
nous pas auto-centrés.
Dans notre accord de branche, caissières où les caissières ne sont pas forcément les moins bien payées dans la distribution, on a un accord de branche qui fait d'abord qu'on est payé sur 13 mois. Dans un centre Leclerc en plus, et c'est inscrit au contrat des centres Leclerc, dès qu'on a un peu d'ancienneté, dès que le magasin fait un premier profit, on reçoit 25% du profit avant impôt donné au personnel sous forme d'intéressement, de participation et de gratification.
Alors ça c'est important, et c'est inscrit dans votre histoire, c'est votre père, Michel-Édouard Leclerc, on peut le dire, c'était un gaulliste séguéniste qui avait fait inscrire dans le contrat...
Très séguéniste, parce que séguéniste n'était pas connu à l'époque.
Dans le contrat des centres Leclerc, l'intéressement et la participation, idée extrêmement gaullienne.
L'idée est gaullienne, et c'était l'intérêt du travailleur au capital. Et en fait, ça représente dans certains centres Leclerc 14, 15, voire 16 mois de salaire dans des centres Leclerc nantais que je connais. Et donc, en net, c'est notre manière d'associer aussi les salariés à cette croissance à laquelle ils contribuent largement.
Vous entendez les propositions qui sont faites en ce moment, notamment à droite, par exemple la baisse des cotisations sociales pour rapprocher le salaire net du brut. Certains candidats veulent augmenter les bas salaires de 10% en baissant ses cotisations, c'est une bonne piste ?
Oui, je pense que c'est la piste qu'il faut creuser, qu'on appelle aussi la fiscalisation des charges sociales. C'est incroyable quand même, dans cette période de mutation du travail, on ne sait pas trop ce que va être la définition d'un poste de travail dans 10 ans, hein, dans l'automobile ou ailleurs. C'est incroyable qu'on fasse payer les charges qui vont couvrir le chômage à des gens qui déjà, à travers le salaire, de gens déjà qui ne savent pas comment va évoluer leur travail. Donc je suis pour décorréler les charges du salaire lui-même. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui paye.
Sûr.
Mais je trouve qu'il faut que les entreprises puissent augmenter les salaires sans avoir en plus à se préoccuper du financement de la sécurité sociale.
Michel et Darlka, on a parlé, c'est quand même le sujet principal, ceux qui nous écoutent en ce moment, chez eux, en voiture, de l'augmentation des prix. On a parlé du fret maritime. J'insiste et je me fais une remarque à l'instant, mais si vous achetiez, par exemple, je ne sais pas, les jouets en France plutôt qu'en Chine, il n'y aurait pas ce problème.
Mais il n'y a pas de jouets en France.
J'ai pris cet exemple, mais si vous achetiez des produits davantage en France qu'en Chine, il y aurait moins ce problème de l'explosion du fret
d'ailleurs,
maritime. Pourquoi vous ne le faites pas ?
Au lieu de
reprocher ça aux entreprises mondiales du fret.
Non, je pense que quand vous dites vous ne le faites pas, c'est la France ne le fait pas.
Oui. Bien sûr, j'ai bien compris.
Et donc, ce que je peux acheter en France, je l'achète en France. Et d'ailleurs, je pense que l'enseigne Leclerc est celle qui est la plus franchouillarde. C'est elle qui achète le plus de produits français, ne serait-ce qu'avec la part de marché et qu'elle représente, et avec l'ancrage territorial. Nous avons, par exemple, sur les alliances locales, 18 000 contrats de petits producteurs. Toutes nos marques, notre marque repère, notre marque de distributeur, qui représente jusqu'à 45% de notre offre, elle est à 95% français. Il y a peut-être quelques oranges et quelques jus de fruits exotiques dedans qui ne soient pas français. Nos marques, nos régions du talent sont françaises. Mmh. Par contre, les grandes marques nationales d'électroménager, les marques de vélos, même les Peugeot et tout ça, à une époque, sont parties en Chine pour construire, et on a dû aller les suivre pour s'approvisionner en produits non alimentaires. Aujourd'hui, le mouvement revient, ce mouvement de relocalisation, et il est souhaitable, et nous l'entretiendrons.
On va conclure. Si vous deviez qualifier d'un mot le climat, l'ambiance actuelle, le contexte de cette campagne ou pré-campagne, que diriez-vous, Michel-Édouard Leclerc ?
Moi, je considère qu'on n'est pas dans une campagne électorale, on est dans un show là, qui donne aux médias de la matière.
Aux médias seulement, mais il y a quand même des propositions de fond pour... Non ?
Je ne sais pas qui écoute vraiment.
Vous ne les connaissez pas ?
Non, je ne les connais pas, je ne connais pas les candidats, parce qu'il ne faut pas oublier que...
Là, vous me faites de la...
Non, sincèrement, je m'y mettrai après les fêtes de Noël, on a le temps.
Pourquoi j'ai du mal à vous croire ? Vous ne connaissez pas les... Vous ne vous intéressez pas du tout au débat politique en ce moment ?
Non, c'est une manière de gérer son temps, je suis dans l'action, je suis dans la reprise, et je vois les problèmes, non pas un à un, c'est le en même temps, mais c'est pas intéressant aujourd'hui. Je pense
peut-être que vous avez déjà votre candidat en réalité.
Ce sont des sujets un peu comme les modes, on les monte, on les descend, il y a plein d'effets de bulle, et je pense que c'est quand les candidats approcheront d'une mise en responsabilité que là, ce sera intéressant de les écouter, de les opposer.
On verra en janvier alors.
Et pour le moment, c'est du show.
Ouais, merci Michel-Édouard Leclerc, merci d'avoir été notre invité ce matin sur Europe 1.